Ô notre Dieu, toi que nous pouvons vraiment appeler notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions de nous envelopper de ton regard. Et quand nous sommes enveloppés de ton regard, tout va bien. Nous voulons te louer, te bénir ce matin de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce qu'au travers de tout, même de cette température, tu nous as préservés les uns et les autres. Et c'est pour étudier une fois encore la parole que tu nous as donnée, que tu nous as conservée dans l'Écriture, que nous sommes réunis. Nous voudrions y discerner vraiment, ce matin plus que jamais, la personne de Jésus, celui que nous devons contempler, dont nous devons nous souvenir à toute heure, celui que nous allons bientôt rencontrer. Et quand nous te verrons, nous savons que nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à ton image. Nous te verrons tel que tu es. Et nous te serons rendus semblables. Tu le feras, Seigneur Jésus, car tu l'as promis. Et nous soupirons après ce moment où nous en aurons fini avec la présence du péché et où nous serons dans ce royaume où tout est pureté, où tout est transparence. Notre Dieu, nous savons que par ton esprit tu vas encore nous parler et nous bénir, et que cet esprit sera notre mémoire quotidienne pour nous rappeler les vérités que nous avons pu entendre par ta parole. Bénis-nous donc et garde-nous dans ta paix. En Jésus. Amen. Eh bien, mes chers amis, on continue ce thème, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, en étudiant cette épître de Tite que nous avons à examiner dans ces derniers versets du chapitre 3e, versets 8 à 15. Nous allons en faire la lecture. Verset 8 du chapitre 3. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru Dieu, vos versions probablement ont mis cru en Dieu, mais littéralement ceux qui ont cru Dieu, pas ceux qui admettent l'existence de Dieu seulement, mais ceux qui ont cru Dieu, ce qu'il dit, qu'il s'applique à exceller dans les bonnes œuvres. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions, les généalogies, les discordes, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. aient soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les bonnes œuvres pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue aussi ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Elle veut trouver le chemin des cœurs comme le soleil aussi est en train de préparer cet après-midi. Il brille maintenant. Nous avons ce matin donc à terminer l'étude de ce chapitre 3 de notre épître. Hier, au verset 1 et 2, parce que nous aimons bien à replacer tout le contexte, Tite avait à rappeler un certain nombre de choses aux chrétiens de Crète. Et ces choses, nous les avons comptées dans ce verset. Dans ces versets. Elles étaient au nombre de 7. Comme quelques-uns n'étaient pas là, je les cite. La première de ces choses, rappelle-leur d'être soumis aux autorités. Et nous avons souligné que cette soumission aux autorités, nous devions reconnaître que les autorités viennent de Dieu. Et nous avons cité Romains chapitre 13, puis aussi Jean 18, où Jésus lui-même, devant Pilate, admet que Pilate n'aurait aucune autorité sur lui si elle ne lui était donnée d'en haut. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pilate qui prétend, tu sais bien que j'ai le pouvoir de te relâcher, mais j'ai aussi le pouvoir de te crucifier. Jésus ne conteste pas, il dit, tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'était donnée d'en haut. Donc, comme chrétien, à l'exemple de Jésus, le Fils unique du Père, nous sommes soumis aux autorités et nous les reconnaissons comme étant un don de Dieu, puisque sans les autorités, eh bien, ce serait l'anarchie sur la terre. Après la soumission aux autorités, première chose dont il fallait se souvenir, nous avons cité l'obéissance. Soumis au gouvernement, aux autorités, et d'obéir, c'est la deuxième chose. L'obéissance, nous le disions, diffère de la soumission qui est plutôt passive, tandis que l'obéissance, elle est active. Troisièmement, être prêt à toute bonne œuvre. Est-ce que nous sommes prêts à toute bonne œuvre? Prêts aussi à quitter peut-être une occupation parce que le Seigneur nous demande quelque chose de plus urgent. Ou bien est-ce que nous disons non, mais je suis occupé, je ne peux pas. Faisons attention. Soyons assez souples pour être prêt à toute bonne œuvre. C'est le Seigneur qui est le patron et il peut peut-être nous enlever d'un travail et puis nous en confier immédiatement un autre. Et on a cité comme exemple Philippe qui était très occupé à Samarie. On aurait pu dire que Il devait rester là, il y avait de la bénédiction, les âmes étaient sauvées, il y avait eu des baptêmes, etc. Et puis là, en pleine occupation, Dieu lui dit, va sur le chemin désert de Jérusalem à Jéricho. Mais pourquoi, Seigneur ? J'ai mes occupations, j'ai ces âmes. Mais les âmes, qui est-ce qui s'en occupe ? Et qui est-ce qui aime les âmes ? C'est pas de nous qu'elles dépendent. On pense toujours qu'on est indispensable. Vous devez vivre dans ce sentiment que vous n'êtes pas indispensable. Pardon. Nous ne sommes pas indispensables. Mais nous sommes à la disposition du Seigneur. Et il fait de nous ce qu'il veut. On aurait pu dire aussi que Jean-Baptiste paraissait indispensable, il avait un ministère magnifique, s'il avait pu le continuer. Non, mais on est là pour un temps. Et c'est pourquoi ce temps, il faut vraiment le vivre dans la dépendance du Seigneur, comme lui le veut. Être prêt à toute bonne heure. C'est la troisième chose que nous avons vue hier. Et puis, ensuite, ne médire de personne, ou n'injurier personne, selon notre version, mais ne médire de personne, et nous soulignons que la médisance, c'est dire quelque chose de mauvais en l'absence de la personne. La personne n'est pas là pour se défendre. Elle ne peut pas se défendre, ni juger, et nous n'avons pas le droit de parler en mal de quelqu'un qui ne se trouve pas là. Et puis, la cinquième chose, de ne pas être querelleur, parce que nous avons vu que les querelles venaient des œuvres de la chair. Et nous vous avons cité, puisque nous n'enseignons que ce que la parole de Dieu nous dit, nous vous avons cité le chapitre 5 des Galates, les œuvres de la chair, il y a les querelles. Nous devons donc être paisibles, et puis le résumé de tout ça, c'est d'être modéré ou conciliant, savoir s'entendre malgré tout sur les points principaux, et puis, septièmement, ce qui doit nous caractériser, c'est la vie de Jésus, plein de douceur. Jésus était doux et humble de cœur, et nous avons cité Matthieu 11, verset 28 à 30. Il était doux et humble de cœur. Ne détruisons jamais le caractère du Christ en nous et ne devenons pas des gens durs pour les autres. Souvenons-nous de ce que nous avons été avant et puis ayons de la patience. Alors, ensuite, on a parlé au verset 3 et nous avons constaté que les choses qui caractérisaient le chrétien, les chrétiens de Crète, avant leur conversion, étaient également au nombre de 7. On a toujours retrouvé 7. Verset 3, les chrétiens de Crète, avant leur conversion, eh bien, qu'est-ce qu'ils étaient ? Insensés. Et on a vu à travers la Bible ce qu'était être un insensé, ne pas croire au Dieu unique. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous avez ça au psaume 14 et puis dans Romains au chapitre 3. Puis, désobéissant. On connaît la vérité, mais on ne s'y conforme pas. Et on a cité Jérémie 4. Là aussi, c'est un insensé, un désobéissant. Puis, on peut être égaré, c'est la troisième chose, c'est ce qu'ils étaient, égarés. Quatrièmement, asservis à diverses convoitises et voluptés. Et si vous y pensez, comment est-ce qu'on peut être délivré de cet asservissement à diverses convoitises mondaines et voluptés en vivant la mort du Christ? Si réellement vous êtes mort avec Christ, comme on l'a souligné hier soir, eh bien, un mort, on ne peut plus le tenter. On peut essayer de le tenter, mais il ne bougera pas. Il y a, dans cette vérité que nous avons essayé de souligner hier soir, une puissance merveilleuse, mais c'est quelque chose de quotidien. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, pour vivre quotidiennement une vie de foi. Et cette vie de foi, elle se vit dans la mort de Christ. Comme Christ est mort, nous devons nous considérer comme morts. Vous me dites, mais je ne sens pas que je suis mort. Je sens bien que ça bouille ici. Je ne sens pas. Ce n'est pas une question de sentir, c'est une question de croire. Puisque Dieu le dit, je le crois. Et je m'écris, c'est vrai, Seigneur, je suis mort. Alors, la tentation disparaît. Mais vous voyez que la vie chrétienne est un exercice constant. Non pas pour s'améliorer, mais pour reconnaître qu'on ne peut rien faire. Et alors, quand on reconnaît immédiatement qu'on ne peut rien faire, on se jette dans les bras de Jésus, et c'est lui qui agit. Puis, le cinquième point que nous avons vu, c'est que on vivait dans la méchanceté et dans l'envie. Et vous savez, on peut faire toute une étude sur l'envie dans la parole. Et qu'est-ce que Pilate avait discerné quand il avait Jésus devant lui? Que ses accusateurs l'avaient livré par envie. Il savait que Jésus était livré par envie. Il savait qu'on l'avait livré par envie. C'était des gens religieux qui enviaient le Seigneur. Et alors, quand on envie quelqu'un, on voudrait le faire disparaître. Puis vous pouvez aussi vous souvenir de Joseph. Ses frères l'avaient aussi livré par envie. Ils enviaient Joseph. Puis on a vu que nous étions aussi comme eux haïssables ou odieux, et non seulement en eux-mêmes, mais ils se haïssaient les uns les autres, tandis que le commandement de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc, on vivait d'une façon tout à fait étrangère à la pensée de Dieu. Et dans ces sept points, nous avons donc la description de ce que nous étions quand autrefois. Notez bien, il y a un changement. Si vous dites que vous êtes sauvé, le monde doit le reconnaître. Et ce salut, c'est un grand salut qui doit être manifesté. Alors on arrive au verset 4, et là nous avons trouvé encore sept points qui nous résument en quelque sorte le salut complet en Jésus-Christ. Il y a aussi là sept caractères qui s'offrent devant nos cœurs. Le premier, nous sommes sauvés par la bonté de Dieu. Quand la bonté de Dieu s'est manifestée pour nous, qu'on a reconnu sa bonté, non sur le principe d'œuvre que nous aurions accompli, il ne nous a pas manifesté sa bonté parce qu'il voyait que nous étions en train d'accomplir une bonne œuvre. Non, il nous a manifesté sa bonté parce qu'elle est dans son propre cœur. Parce que Dieu est bon. Puis la deuxième chose que nous avons soulignée, c'est que nous étions sauvés par son amour. Un amour envers qui? Envers tous les hommes. Et cet amour s'est manifesté où? Quand? À la croix. Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, on n'avait pas changé de vie. Qui nous a aimé le premier? Et c'est ce que je dis souvent, le premier amour, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de Dieu pour nous. Et quand il est dit qu'on a abandonné le premier amour, c'est qu'on ne vit plus vraiment avec Dieu. Retrouver le premier amour, c'est vivre de nouveau dans une attente constante du Seigneur. Eh bien, cet amour s'est manifesté à la croix. Nous avons été sauvés par sa miséricorde, par le lavage d'eau de la régénération, ça c'est la conversion, Et qu'est-ce que c'est que ce lavage d'eau? Jésus en a parlé quand il disait à ses disciples, au moment où il leur lavait les pieds, celui qui a cru en lui, il était tout net. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on est nettoyé par la parole. Mais ensuite, chaque jour, qu'est-ce qui doit nous arriver? On doit se laver les pieds. Parce que en marchant dans un monde où il y a encore le péché, on se souille, de sorte que l'activité du Seigneur pour nous, c'est ce lavage des pieds quotidien. Tant que vous marchez dans la communion du Seigneur, le sang du Christ vous purifie de tout péché. Mais ces péchés vous sont révélés. Ce qu'il y a dans la vie chrétienne, c'est que on va dans la lumière, on vit dans la lumière. Et vivre dans la lumière, c'est vivre dans une dépendance si grande de Dieu que immédiatement on sait que ce n'est pas bien ce qu'on fait. On sait que ses pensées sont mauvaises. Alors on s'en juge. C'est pourquoi nous disons, et nous le répétons souvent, vivre dans la communion, c'est vivre une vie de confession. On confesse immédiatement notre péché et nous savons que nous sommes couverts par le sang du Christ, de sorte que nous n'avons pas mauvaise conscience. Nous reconnaissons que c'était vrai, que nous avions besoin d'un sauveur. Mais donc la foi est constamment en activité. Alors, le lavage d'eau par la régénération, c'est l'action de la parole sur nous qui nous amène à confesser notre péché. C'est pour ça que au moment de la mort, quand on s'est confessé quotidiennement, eh bien, on n'a pas un gros sac à confesser. On entre comme de plein pied dans le ciel. C'est cela que nous devons y travailler. Que nous puissions, si le Seigneur devait nous reprendre, à tout instant, entrer comme de plein pied dans le ciel. Parce que le Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous et il ne nous donne pas l'Esprit par mesure. Alors, vous voyez comme ça corrige aussi bien sûr certaines de nos prières quand on demande davantage de Saint-Esprit. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas, comme nous le disions, un liquide, c'est une personne. Mais cette personne n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper. Nous ne lui avons pas remis le volant. Nous voulons conduire, nous. Eh bien, il nous arrive toute espèce d'accident. Mais le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Et il est dit qu'il l'a répandu richement sur nous. Vous avez une richesse en vous. Mais nous n'en vivons pas. C'est notre faute. Toute notre faiblesse vient de notre faute. Nous ne donnons pas la place à celui qui voudrait nous diriger. Dieu ne nous a pas donné l'esprit par mesure. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 34. Nous sommes justifiés par la grâce. C'est pas notre justice à nous, mais c'est la justice de Dieu qui nous est donné. Parce que par la justice sainte de Dieu, qu'est-ce qui nous arriverait? Si Dieu ne regardait qu'à sa justice sainte, nous serions condamnés. Mais par sa grâce, nous sommes justifiés. Voilà, justifiés par la grâce. Et alors, la septième chose, et nous arrivons alors, après avoir revu ces choses, nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, nous l'avons encore qu'en espérance. Tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, nous ne le possédons que dans la foi, c'est pas la vue, donc il y a encore la lutte, mais nous avons déjà la certitude d'hériter la vie éternelle. Mais le plein salut, nous ne l'aurons qu'à son retour. Nous sommes sauvés en espérant. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, Philippiens 2, verset 20, nous attendons Jésus. D'où? Du ciel, parce que nous savons qu'il est là au ciel où il nous a préparé une place, mais nous attendons le Seigneur Jésus du ciel. Vous lisez cela dans Philippiens chapitre 3. Au chapitre 3, au verset 20e. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous me direz, mais on l'a déjà reçu comme sauveur. Oui, il est venu une première fois pour accomplir l'œuvre du salut. Il a rendu possible l'œuvre de notre salut, le pardon de nos péchés, nous le possédons. Et puis, mais qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons son retour, car il a dit, je reviendrai. Et il transformera le corps de notre abaissement, ou notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux. Voilà ce que nous avons devant nous, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Et cela, comme nous l'avons lu dans les Corinthiens, chapitre 15, comme aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, eh bien, le retour du Seigneur se fait d'abord dans un premier acte. Il vient sur les nuées du ciel pour enlever les siens. Et notre rencontre a lieu sur les nuées du ciel. Il y a un enlèvement d'abord. Et cet enlèvement, il concerne uniquement les croyants. Pas seulement notre église locale, mais les croyants du monde entier. Mais des clous avec des morceaux de bois, des petits bois, des allumettes, puis mêlez-les ensemble, prenez un puissant aimant, qu'est-ce qui va venir? C'est pas les allumettes. Les allumettes sont bonnes à brûler, hein. Mais l'aimant, eh bien, va attirer ce qui est de la même nature que lui. Tout ce qui est de fer, là, va être attiré. Eh bien, il y aura un enlèvement des croyants. Et vous savez, ça sera le grand événement. On ne pense qu'à ce qui va arriver à l'an 2000, mais peut-être qu'avant l'an 2000, le Seigneur peut être venu. Parce que le monde est vraiment mûr pour le jugement. Vous ne pouvez plus, vous ne savez plus, et vous devez arriver à ce moment-là. On m'a dit qu'il y avait eu un tremblement de terre 16 degrés aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas comment j'ai les nouvelles, parce que je n'ai pas de radio ni de télévision, mais il y en a toujours qui viennent de me le dire. Alors, on m'a dit qu'il y avait un, je ne sais pas même où, mais mes amis, la parole de Dieu va s'accomplir. Et puis, vous vivez dans un monde, et quand je reçois des téléphones de quelqu'un qui voudrait que je prie spécialement pour lui ou pour elle, eh bien, je vois que les gens n'arrivent plus. Ils me disent, ben, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous fait, c'est injuste, ou ceci ou ça. Il faut que vous sachiez que ça ne va pas s'améliorer. Et que votre cœur soupire après la délivrance. Mais comme nous le disions, nous aimerions que ce ne soit pas les circonstances qui nous fassent soupirer après le retour du Seigneur, que ce ne soit pas pour être délivré seulement de toutes nos misères, nous disions, viens Seigneur Jésus, mais parce que Jésus est l'objet de nos cœurs, d'affection de nos cœurs. Il est le centre de nos pensées, et nous ne pouvons plus vivre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monde? Il a crucifié Jésus. Et quand on vient nous dire dans des églises que les grands prédicateurs d'aujourd'hui, si Paul revenait, et Pierre et Paul viendraient leur demander conseil. faut être dingue pour dire des choses comme ça. Puis on évangélise, puis on dit, mais si Pierre et Paul venaient, ils nous demanderaient conseil pour savoir comment faire. Mais vous voyez, c'est le rejet ouvert des vérités chrétiennes. Alors, je voudrais, non pas que vous ayez mes idées, mais vous reveniez à la parole. Vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a repris tout cela? Parce que ce sont des choses essentielles dans cette petite épître de Tite, et si elles sont bien dans votre cœur, si on les a répétées, eh bien, comme le petit Dubreuil me l'a dit, vous savez, M. Racine, Rococo Galéfi, je connais ça. Donc, un petit, il comprend, eh bien, que le Seigneur nous montre que nous devons revenir à la parole. Car la révélation a été faite. Donc nous sommes sauvés par sa bonté, par son amour, par sa miséricorde, par le lavage de la régénération, par le Saint-Esprit qui nous habite. Nous sommes justifiés par la grâce, par sa juste grâce. Et puis, nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Alors nous attendons maintenant la pleine manifestation de la vie éternelle, et c'est le retour du Seigneur qui va nous l'apporter. Alors vivez dans l'espérance de ce retour du Seigneur. Et puis ne dites pas, oh, quand le Seigneur reviendra, tout œil le verra. C'est vrai, mais quand il revient en gloire. Il vient d'abord en grâce. Et l'enlèvement des croyants, c'est la grâce qui est promise à l'Église. Les autres peuvent le nier, eh bien, niez-le. Et quand il est dit qu'il nous préservera de l'heure de l'épreuve, si vous voulez passer par l'heure de l'épreuve, eh bien, allez-y. Mais je doute fort de votre salut. Parce que quand le Seigneur viendra, il prendra ce qui est de son corps, ce qui lui appartient, ce peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Et quand Paul prêchait aux Thessaloniciens, ceux qui étaient convertis avaient été enseignés par Paul de telle manière que se détournant des idoles pour se tourner vers Dieu, ils vivaient en attendant le Seigneur. C'est ça qui est beau. Hein. Ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. Est-ce qu'elle vient cette colère ou est-ce qu'elle ne vient pas? Mais quand vous voyez ce qui en est du monde, vous vous rendez compte que la colère de Dieu va éclater. La colère à venir. Mais les croyants qui se confient dans leur Seigneur, ils ne sont pas destinés à la colère à venir. Ils ont gardé la parole. Et c'est ce que vous trouvez dans l'Apocalypse. Tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai de quoi? De l'heure de l'épreuve. Vous ne pouvez pas biffer ces textes. Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Eh bien, quand on dit maintenant que c'est tout est légal, tout ce qui était autrefois condamné par la parole, l'homosexualité et tout le reste, eh bien, tout est légal, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est Dieu qui va juger. Et son règne, pour introduire le royaume, il l'introduit par la puissance. Il est venu une première fois comme l'agneau qui a donné sa vie. Il revient une seconde fois comme le lion de la tribu de Juda. Ça colle avec l'écriture, vous savez. Et il vous faut être de ceux qui aiment l'écriture. Et ne vous laissez pas démolir. Car nous arrivons, et vous pouvez vous dire, il a mis bien du temps pour y arriver, peu importe ce que vous pouvez penser de moi, cette parole est quoi ? Certaine. On arrive à cela, n'est-ce pas ? Cette parole est certaine. Puis vous pourriez étudier toutes les fois que vous trouvez cette expression, cette parole est certaine. Je vous le cite, une première, cette parole est certaine, c'est 1 Timothée 1, verset 15. Qu'est-ce qui est certain ? Eh bien, Paul le dit pour lui-même, après avoir raconté sa conversion, ce qu'il était avant sa conversion, et tout ce qu'il a enseigné aux autres, eh bien, c'est des choses qu'il a vécues lui aussi. Chapitre 1er, verset 15. Ou lisons le verset 14. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, qui que vous soyez, vous pouvez toujours vous mettre à la suite de l'apôtre Paul. Mais le premier des pécheurs, c'est par vous. Paul a pris cette place-là. Mais il m'a été fait miséricorde. C'est bien ça, hein? On est sauvé par sa miséricorde. Afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience. Alors, souvenez-vous. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est égaré, eh bien, souvenez-vous de la patience que Dieu a eue pour vous. Et même quelqu'un qui avait la connaissance de la vérité, il a pu s'égarer. Alors, souvenez-vous de tout cela. Et que la grâce se glorifie toujours vis-à-vis du jugement. On ne peut pas approuver certaines choses qui se passent, mais on peut prier pour que la grâce opère même sur ceux qui se sont égarés. Et que le Seigneur nous rappelle toute la patience qu'il a eue pour nous amener à comprendre la vérité et nous donner la force d'en vivre. Pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Alors, 1 Timothée 1,15. Maintenant, prenez chapitre 3, verset 1. De la même première épître. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de surveillant, il désire une belle activité. Quelqu'un qui voudrait être surveillant, eh bien, il doit en manifester les caractères. C'est une parole certaine. Le Seigneur bénira celui qui désire manifester les caractères d'anciens et que son assemblée voit qu'il en a vraiment les caractères. Maintenant, prenez chapitre 4, verset 8, une troisième parole certaine, verset 9. Lisons déjà depuis le verset 8. L'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Donc la relation avec Dieu, l'exercice d'une relation avec Dieu. Parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Pour la vie présente, vous avez cela. Et pour la vie à venir. C'est une parole certaine, verset 9. Et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Pourquoi est-ce que nous agissons de cette façon ? C'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Le Dieu vivant va accomplir ce qu'il a dit. Et ce Dieu vivant, il est le sauveur de tous les hommes. N'est-ce pas ? Ayons foi pour tous les hommes, même pour ceux dans vos familles qui vous semblent être le plus hostile. Continuez de prier pour eux. Et ne pensez pas qu'ils doivent absolument avoir vos mêmes mots pour parler leur sauveur. Chacun a sa relation personnelle avec le sauveur. Il est le sauveur de tous les hommes. Donc du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Et quand on a des enfants et qui on les a élevés dans le Seigneur, mais ils ont pu s'égarer à un moment donné, et quand on a un enfant de 50, 60 ans, eh bien, c'est difficile. Mais quelle est notre confiance? Toi et ta maison. Nous nous confions dans les promesses de Dieu, et puis nous avons des textes bibliques qui nous montrent qu'un jour ou l'autre, le Seigneur peut ramener nos enfants. Mais alors, à nous de manifester cette confiance dans notre Dieu. Nous ne pouvons pas approuver ce que nos enfants peuvent faire, peut-être, mais nous pouvons croire à l'intervention du Seigneur. Et il y a un verset dans Ésaïe qui a souvent été en bénédiction à des parents. Voyons, je ne le trouve pas là. Où il est dit que quand les enfants verront, tu n'auras plus à rougir. Oui, c'est le chapitre 29. Vous voyez, j'emploie plusieurs Bibles et puis on a une mémoire visuelle des fois. Hein, et puis, alors, c'est plus la même chose. Alors, et quand on vient vieux, on risque de perdre aussi la mémoire. Bon, mais c'est bien qu'on voit cela. Chapitre 29, verset 22. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob n'aura plus honte. Il a pu avoir honte. Hein? Son fils aîné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec une des femmes de son père. Et puis, Siméon et Lévi ont été des massacreurs. Et Jacob était humilié de ce que ses fils avaient fait. Il pouvait avoir honte. À la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham, maintenant Jacob n'aura plus honte. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de qui? L'œuvre de mes mains. Ben je crois à l'œuvre de ses mains pour nos enfants. Ils sanctifieront mon nom, donc ne soyez pas de ceux qui doutent. Ils sanctifieront le Saint Jacob et ils redouteront le Dieu d'Israël. Donc c'est qu'ils reviendront. Ceux dont l'esprit s'égarait. Parce que justement, il y a un égarement d'esprit dans un monde comme il est aujourd'hui. Hein, il y a un égarement d'esprit. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. C'est merveilleux des passages comme ceux-là. Et vous pouvez y compter. Alors, vous vous emparez de ces textes et vous les croyez. C'est une parole certaine, comme nous l'avons vu. Au chapitre 4 de la première à Timothée, versets 9 et 10, nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alors, nos enfants ont souvent confessé le Seigneur quand ils étaient jeunes. Je me souviens toujours d'une chère amie qui... J'avais 13 ans et demi quand j'ai donné mon premier témoignage dans un camp. c'était à Lausanne, et elle me disait, elle a eu 7 enfants, elle me disait, j'ai reçu la grâce d'amener mes enfants à la nouvelle naissance. C'est beau, hein? La maman disait ça, de tous ses enfants ont été sauvés, sont dans le service du Seigneur, et l'influence de la mère avait été si grande pour ses enfants qu'ils étaient au service du Seigneur. Chapitre 4, verset 8, on l'a lu, c'est une parole certaine. Maintenant, 2 Timothée 2, verset 10 à 12. La parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. S'ils sont élus, vous pouvez le croire, hein, mais je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Que ces élus obtiennent le salut en vive et le manifeste. Ce salut, il est acquis en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, comme nous l'avons dit hier, hein, et qui est illustré par le baptême, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renierons, lui, ou, si nous le renions, lui aussi nous renie. D'elle, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, quand je prends une des promesses de Dieu, je sais qu'il est fidèle et qu'il ne peut se renier lui-même. Et alors là, Tite 3, verset 8, cette parole certaine que nous avons un peu vu à travers l'Écriture. Cette parole est certaine, je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ou qui ont cru Dieu, s'appliquent à exceller dans les bonnes œuvres. Vous ne devez pas vous laisser arrêter par les circonstances ou par des choses qui vous seraient très douloureuses. Vous ne devez pas vous laisser arrêter. Vous devez exceller dans les bonnes œuvres. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Et ça sera utile même à vos enfants qui reconnaîtront la main de Dieu dans vos foyers. Mais alors, ce que nous devons éviter maintenant, verset 9, et ça nous prend souvent tellement de temps, bien, ayez du discernement. Évite les folles discussions. L'autre jour, on est venu me demander, qu'est-ce que vous pensez de Toronto, parce qu'il y a des chrétiens qui sont allés, et puis ils pensent que c'est bien, etc. De rire comme des fous, de tomber par terre, même sur un matelas, parce qu'on a mis des matelas pour que vous ne vous cassiez rien, et puis il y a des gardiens là, pour... Si vous voulez ça, mais moi je ne vais pas discuter ça, parce qu'il est dit, quand on vous dit qu'il est là, n'y allez pas, puis vous dites, ils y vont. Puis le pire, c'est qu'ils font des collectes, et c'est surtout les pasteurs qui font ça, pour y aller, parce qu'ils voudraient amener ce réveil de Toronto dans leur boutique. Puis on entend toutes sortes de choses. Alors, ayez du discernement spirituel. Vous direz, mais moi j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais vous en connaissez assez. Relisez l'épître de Tite. Elle est courte. Hein? Combien de versets?
46.
Alors, en peu de mots, le Seigneur nous aura instruits. Évite les folles discussions. On a des discussions sur des sujets qui sont pourtant claires dans la parole. Les généalogies, les discordes, les disputes relatives à la loi. Est-ce qu'on est encore sous la loi? Non. Alors, c'est plus du « tu dois » et « tu ne dois pas » est-ce que je peux faire ceci, est-ce que vous ne remettez plus les chrétiens sous la loi. Car ces discussions, quelle est leur qualification? Elles sont inutiles. Alors, inutiles et puis quoi? Vaines. Elles ne vous apportent rien que de l'irritation. Alors, ne discutez pas. Et puis, s'il n'y a pas de changement, eh bien, alors on arrive au verset 10. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. On parle à quelqu'un, on lui montre certaines choses, et puis si dans le deuxième entretien, il n'y a rien qui se passe, eh bien, forcément, ça cause des divisions, eh bien, on s'éloigne. Sachant qu'un tel homme, qui veut tout mener ou tout conduire, est perverti, qu'il pêche, et se condamne lui-même. Ce n'est pas à nous à le condamner, mais le Seigneur manifestera qu'il se condamne lui-même. Alors, nous pourrions reprendre dans Timothée ces choses que nous devons mettre de côté, ces discussions, mais nous abrégeons et nous arrivons au verset 12e. Alors on pourrait dire, mais alors ces recommandations, ce n'est pas tellement pour nous, mais il n'y a pas une parole dans l'Écriture qui n'est pas un enseignement. Lorsque je t'enverrai Artémas, alors on dit, mais qui c'est Artémas? Il est nommé qu'une fois, là. C'est un serviteur de Dieu qui était avec Paul, qui était un collaborateur de Paul. Paul ne nous en dit rien, alors on n'en sait rien, mais le Seigneur sait qui est Artémas, comme il sait qui nous sommes. Ou Tychique, alors on a davantage des renseignements sur Tychique, qui est un collaborateur de Paul. Je t'enverrai Artémas ou Tychique. Donc, vous voyez, Paul reste en contact avec Tite. Il ne va pas le laisser seul en Crète. Il l'a laissé un temps, mais il va l'aider. Et il lui demande, empresse-toi de venir me voir, me rejoindre. Ou il lui cite Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu. Il a aussi des plans. On est bien obligé d'avoir des plans. On est bien obligé de prendre des décisions, mais quand on est au Seigneur, on prie, d'après la lumière qu'on a, on lui demande ce que nous devons faire, où nous devons être, puis on peut dire, bien, si le Seigneur le veut, je passerai l'hiver à tel endroit. J'ai résolu de passer l'hiver. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Ça, il le verra plus tard. Verset 13. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas. Zénas, tout ce qu'on sait de lui, c'était un docteur de la loi. Et on voit que Paul, tout en étant dans le ministère, il pensait à d'autres serviteurs et il encourageait Tite à pourvoir au voyage de Zénas. Vous savez, moi je trouve que ça c'est très beau. Hein. Mais vous savez, on fait des expériences quand on est au service du Seigneur. Il y a des gens qui nous écrivent, on aimerait vous avoir pour une mission. Combien demandez-vous? Croyez que j'irai? Si le Seigneur m'envoie, il me donne ce qu'il ordonne. Et le pouvoir, et soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi. Et d'Apollos, alors vous savez qui est Apollos, qui a été instruit davantage dans la vérité par qui? Par Ananias et Priscilla. Six fois, il est parlé de ce couple, Ananias et Priscilla. Et trois fois, c'est Priscilla qui est nommée la première, Priscilla et Ananias. Alors, Paul est soucieux pour eux, pour Apollos, et il demande à Tite de pourvoir à leur voyage. En sorte que tout leur manque, rien ne leur manque. Et voyez-vous, quand Jésus dit à ses disciples avant de les quitter, quand j'étais avec vous et que vous avez manqué de quelque chose, eux qui avaient tout quitté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Mais c'est ça le témoignage. Nous n'avons manqué de rien. On a pu être dans des circonstances difficiles, mais le Seigneur a pourvu, il a donné le nécessaire. Et je crois que nous devons prendre cette règle, être reconnaissant qu'il nous donne le nécessaire. Paul dit qu'il a appris cela. J'ai appris à être dans le besoin, mais j'ai aussi appris à être dans l'abondance. Parce que dans l'abondance, ça nous permet de donner. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors on peut être heureux aussi, être dans l'abondance. Mais il est aussi, dans certaines phases, dans le besoin. Mais dit, j'ai appris à être dans le besoin. C'est un apprentissage. Ça fait partie de l'éducation chrétienne. Et vous voyez, verset 14, il faut que les nôtres, c'est beau, hein, voilà la famille chrétienne, c'est les nôtres. Mais quelquefois, il y a des sectaires. Je me souviens, dans une ville du centre de la France, on avait des grandes conférences. Et puis, à table, on mangeait tous ensemble. Puis, un de ses braves frères, qui avait un petit bouc, qui vient vers moi, puis il me dit, « Mais, monsieur Racine, vous êtes bien des nôtres !»« Des nôtres. Des nôtres. J'ai fait l'âne. » Parce qu'il faut des fois faire l'âne. J'ai dit, « Je suis des siens. » Parce qu'avant d'être des nôtres, parce qu'on voudrait... vraiment savoir si vous, est-ce que vous êtes vraiment des nôtres. Ou parce que vous n'êtes pas sur une liste qu'ont peut-être les frères avec lesquels vous avez pourtant communion, mais mon nom n'y est pas. Alors on n'est pas des leurs. Alors faites attention. Il faut que les nôtres, oui, alors dans le vrai sens, nous sommes ensemble, il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les œuvres bonnes. Et alors, on pourrait parler encore bien longtemps sur les œuvres dont il est question dans cet épître à Tite. On a tellement parlé du salut par grâce, on est sauvé par la grâce, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, que bien souvent les œuvres, eh bien, on en parle pas beaucoup. Il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les œuvres bonnes. Alors, je vous dis juste quelques mots sur les bonnes œuvres, parce qu'il y a au moins six fois les œuvres qui sont mentionnées dans cet épître à Tite. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet des œuvres? Il a demandé à ses disciples. Il les a exhortés aux bonnes œuvres. Et il disait que le monde devait voir nos bonnes œuvres afin de croire. C'est par les œuvres des chrétiens que le monde peut être amené à croire, en voyant les œuvres des chrétiens. Donc, s'il y a une foi vivante, il y a des œuvres vivantes et qui parle. Matthieu 5, verset 16, le Seigneur dit qu'il faut les bonnes œuvres pour que les gens soient amenés à croire. Dans Matthieu 11, verset 19, il est parlé des œuvres de la sagesse. dans Jean, chapitre 3, verset 19, il est souligné des œuvres mauvaises dont on doit être séparé. Il est question aussi dans Romains 2, 15, des œuvres de la loi. Dans Galates 5, des œuvres de la chair. Puis dans Éphésiens 2, il est dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc, ça doit exister chez un chrétien, les bonnes œuvres. Parce qu'on a été créé pour cela, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, demandons au Seigneur, mais qu'est-ce que tu as préparé pour moi ? Ce n'est pas moi qui choisis les œuvres, mais tu as préparé des œuvres pour moi. Et quand je serai devant le Seigneur, il va me demander compte de ces œuvres. Alors, je ne peux pas nécessairement avoir l'approbation de tout le monde au sujet de ce que je fais, mais j'ai dit une fois à certains qui me disaient « Vous ne devriez pas faire cela, vous ne devriez pas aller ici. » Mais mes amis, est-ce que vous répondrez pour moi au Seigneur quand il me dira « Je t'avais ouvert à toi une porte pour faire ce travail. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» J'ai dit à ses frères « Est-ce que vous répondrez pour moi ?» « Oh non, chacun pour soi. » Alors laissez-moi prendre mes responsabilités. Comprenez-vous ? Laissez-moi prendre mes responsabilités. Il ne vous a pas demandé cela. Moi, je ne vous dis pas que vous devez faire cela. Je ne vous dis pas que vous devez faire exactement ce que je fais. Mais moi, je suis responsable de ce que Dieu me demande. Et je veux pouvoir lui répondre. Alors, ayez une vie personnelle avec Dieu et que la bénédiction de Dieu et l'approbation de Dieu soient sur votre vie. Puis alors, vous pourriez parler aussi dans Éphésiens 5, verset 11, il est parlé des œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a des œuvres que l'on veut faire, mais elles sont infructueuses. Il y a les œuvres mortes, Hébreux 6, verset 1 et 9, verset 14. Il y a les œuvres de la loi, de Thessaloniciens 1, 11. Et puis, il y a les œuvres du diable, 1 Jean 3, verset 8. On pourrait parler des œuvres des Nicolaïtes dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 6. Puis, il y a les premières œuvres, celles que l'on a fait peut-être au début de sa conversion, on était plein de zèle, puis on s'est plus ou moins arrêté. Puis il y a les œuvres convenables à la repentance, dans Actes 26, verset 20. Et un dernier mot, l'œuvre du juste. Qui est la paix, Ésaïe 32. Voilà au sujet des œuvres. Nous devons donc exceller dans les œuvres bonnes. Alors, vous pouvez méditer sur ce que sont les œuvres bonnes. Et le dernier verset, 15, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Donc, là, Paul n'était pas seul. Il avait des collaborateurs qui était avec lui, et deux qu'il allait envoyer, qui étaient qui ? Artémas et Tichis, hein, qu'il allait envoyer, et il donnait à Tite un enseignement sur sa responsabilité de pourvoir au voyage de ses frères. Et alors là, pour terminer, pour vous montrer que c'est vrai tout ça, je voudrais vous rappeler, mais je ne pense pas l'avoir dit. En 1947, j'ai dû passer par une terrible épreuve. Et j'ai quitté mon pays et je suis parti pour 3 mois, seul, dans un pays dont je ne connaissais pas la langue. La mère de mes enfants était d'accord parce que je m'étais réveillé dans une grande détresse en entendant nettement ces mots par en Angleterre. C'était 3 heures du matin. Je travaillais dans une maison de malades, dont plusieurs étaient des malades mentaux, et à 3 heures du matin, je suis réveillé en entendant cette voix par en Angleterre. C'est de la folie. Un mois après, j'étais en Angleterre. Le Seigneur avait tout à planer. Mais j'étais seul là-bas. Puis j'étais parti avec très peu d'argent. Et puis voilà qu'un jour, là où je me trouvais, alors je n'avais pas donné mon adresse à personne, sauf ma femme, la mère de mes enfants là, je reçois un téléphone d'un homme qui me dit: oh, monsieur Racine, le Seigneur m'a exaucé, je vous ai trouvé. C'était un maudit anglais. Ouais, j'étais en Angleterre. Mais comment m'avait-il trouvé? Moi, je ne le connaissais pas. Et il me dit: je vous donne un rendez-vous dans un Lyons pour un de ces jours. Puis je suis allé. C'était un homme de Dieu vraiment remarquable. Puis qui me dit: vous savez, je connais votre histoire. Je sais ce qu'on vous a fait. Et je suis parti de Londres pour vous trouver en Europe. Puis là, on m'a dit que vous étiez en Angleterre. Mais personne n'a pu me donner votre adresse. Et puis, il prend sa Bible. Puis il me dit: je me suis laissé conduire par cette parole. Et c'était dans la première épître, dans la troisième épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Car je me suis très réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. Comment toi tu marches dans la vérité? Mais quand on marche dans la vérité, on n'est pas toujours approuvé, hein, puis on a des grands ennemis. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. Et il me dit: quand j'ai entendu ce qui vous était arrivé, cette parole m'a transpercé. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'Assemblée. Et tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu, car ils sont sortis pour le nom, ne recevant rien de ceux des nations. Et en effet, on avait décidé dans mes circonstances que toutes les assemblées qui me connaissaient, on leur avait écrit de ne me faire aucun don. Je n'ai jamais demandé un don, mais on avait donné l'ordre que on ne voit rien à Racine, que si on le faisait, la personne, si ça se trouvait, elle serait elle-même mise hors de communion. C'est grave, hein? Nous donc, nous devons recevoir de tels hommes. Voilà ce qu'il me dit qu'il avait reçu. Afin que nous coopérions avec la vérité. J'ai écrit quelque chose à l'Assemblée de France. Et il m'a dit: voilà, le Seigneur m'a donné de vous donner cette enveloppe. Il me donne une enveloppe. Ça a couvert tous mes frais. Mais c'est pas de la folie. Je l'ai vécu, ça. Et c'est seulement tout à l'heure, en descendant de l'escalier, que le Seigneur me dit: tu pourrais leur raconter ce fait. Que quelqu'un qui ne te connaissait pas part d'Angleterre pour venir me donner un encouragement en Europe, il ne me trouve pas, il me cherche, Il me retrouve en Angleterre et il me soutient. C'est pas des contes de fées, c'est pas les rêves de... Comment ça s'appelle ? Hein ? Non, non. J'ai entendu ses rêves. Enrique, il en racontait ses rêves. Moi, je ne vis pas dans le rêve. C'est la réalité, ça m'est arrivé. De sorte qu'au bout de 3 mois, quand je suis rentré, j'avais autant d'argent que quand je suis parti. Voilà notre Seigneur qui nous éprouve, mais qui prend soin de nous.